C'est toujours difficile de choisir un thème, un sujet pour les prédications. En tout cas, pour moi, ça l'est. J'essaie toujours de réfléchir un petit peu à ce que j'aimerais changer chez moi avant de choisir quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a une question qui me trotte dans la tête parfois. Ma femme est souvent là pour me le rappeler. Et j'ai envie de vous poser la même question. Est-ce que vous pensez être des gens avec qui il est facile de se réconcilier? Qui le pense? Que c'est facile avec vous de se réconcilier? On va lever la main pour faire un sondage. Comme ça, il y a quand même quelqu'un qui lève la main. Stéphane aussi lève la main. C'est plutôt facile. Pour qui c'est facile de se réconcilier? Attendez, je termine la question. Quand c'est vous qui avez été blessé? C'est vous qui avez été blessé? Et est-ce que c'est facile pour vous, du coup, de vous réconcilier avec la personne qui vous a fait du mal? C'est facile? Pour qui c'est facile? Ah, Linette, merci. On n'est pas si mauvais, hein, ça veut dire. Alors, pour vous dire la vérité, pour moi, c'est pas toujours facile. Et souvent, alors vous allez me dire si vous allez vous reconnaître, parce que moi, souvent, quand c'est difficile, j'ai toujours trois sujets pour lesquels c'est difficile. Parce que je dis, moi, je veux bien me réconcilier, mais ça dépend avec qui. Il dit, voyons, on parle de quelqu'un, se réconcilier, ça voulait dire qu'on avait une relation avec la personne. A priori, c'est quelqu'un qu'on aimait bien, qu'on estimait. Donc avec qui, ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, en tant que chrétien, on aime tout le monde, n'est-ce pas? Mais ça, avec qui, c'est un peu secondaire. Mais les deux autres sujets arrivent aussi souvent. Et en tout cas, moi, c'est le problème pour moi. Et vous allez me dire, c'est la même chose pour vous. On va dire souvent, ça dépend pourquoi. Si c'est un peu trop gros, ça dépend pourquoi. Et puis après, ça c'est le pire pour moi, c'est ce que ma femme me reproche souvent. Ça dépend de comment la personne se comporte après. Qui est comme moi? Juste pour savoir. Moi, je veux bien me réconcilier, mais ça dépend pourquoi. Et ça dépend comment la personne se comporte. J'ai envie de dire, ça dépend surtout de comment la personne se comporte. Souvent, quand les gens nous font quelque chose de pas bien, on s'attend d'elles à ce qu'elles fassent profil bas. Surtout pas trop la ramener, s'il vous plaît. Faut montrer qu'on regrette. C'est important. Et il y a quelqu'un dans la Bible, justement, qui n'a pas trop l'habitude de faire profil bas. C'est un peu bizarre, elle a fait quelque chose de pas bien. Et on va dire pas bien, quand je dis pas bien, c'est vraiment pas bien. C'est David. David, vous savez, il a fait quelque chose de pas bien dans la Bible. Il en a fait plein. Mais avant d'écrire le psaume 51, c'était le texte que je vais vous proposer de partager avec vous ce matin, il a vraiment fait quelque chose de pas bien. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait David avant d'écrire ce psaume? C'est écrit au tout début du psaume d'ailleurs. Hein. Il a fait quoi? Il a volé la femme de quelqu'un. Alors, pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire, je pense que tout le monde la connaît, mais c'est important de se rappeler que ce qu'il a fait là, c'est vraiment pas bien. Parce que là, il cumule les interdictions. Première chose, convoitise. Je l'entends, hein, convoitise. Il convoite la femme de quelqu'un d'autre. Et ça, dans les 10 commandements, c'est pas bien. Hein. Puis on n'aime pas quand on convoite nos affaires, hein, d'ailleurs, cela dit. Qu'est-ce qu'il fait d'autre alors? Il convoite, et en plus, il passe à l'acte, hein. Adultère. C'est aussi dans les 10 commandements. Pas bien. Il y en a d'autres ou pas dans les 10 commandements qui ne respectent pas quand il fait ça ou pas? Avant le meurtre, qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez l'histoire? Donc il est comme ça, il est roi, il regarde au-dessus de son palais, et puis il voit la femme, il la convoite, il décide de la prendre, et là, petit remords, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire quoi? De monter. Alors c'est toujours un débat, est-ce que c'est bien de mentir ou c'est pas bien de mentir? Il y en a qui disent, ça dépend. Si je vais chez quelqu'un qui me fait à manger, qui a passé 3 heures à faire à manger, et qui me demande mon avis, est-ce que c'est bon et que ça me plaît pas, est-ce que je dois lui dire? Si vous lisez bien le texte, la Bible, elle dit bien, donc elle dit que tu ne porteras pas de faux témoignages contre quelqu'un. Elle parle de ragot, là, de briser la réputation de quelque chose et de mentir contre quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il fait, David, une fois qu'il a commis l'adultère? Il se sent mal à l'aise et décide de monter une petite histoire, un faux témoignage. Elle est enceinte, hein, Bathsheba, elle est enceinte. Et il veut pas assumer que c'est lui le père, il veut faire croire que c'est son mari. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle son mari qui était au combat. Il voulait pas, hein, Uri, il voulait rester au combat pour son peuple. Il revient, il le fait boire un peu quand même, parce que Uri, il a quand même pas la conscience tranquille d'être là. Donc il prépare bien son faux témoignage comme il faut. Ah! C'est le fils, ça c'est parce que ça sera un fils, c'est le fils d'Uri, pas le mien. Faux témoignage contre quelqu'un. Trois, hein. Ensuite, il y a quoi d'autre? On l'a dit, hein. Encore quelque chose d'interdit. Il fait quoi? Il organise le meurtre, hein, d'Uri. Convoitise, adultère, faux témoignage, meurtre. Il y a encore autre chose qu'il ne respecte pas dans les 10 commandements? Moi, je crois que c'est pas dit dans le texte, mais pour moi, en tout cas, il y a un des 10 commandements, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et là, David, du haut de son palais, il se croit un peu tout-puissant. Hein. D'ailleurs, il se permet d'aller choisir comme ça une femme de quelqu'un d'autre. Il se sent tellement puissant que je pense même qu'il a oublié Dieu dedans. Que pour lui, c'était lui le tout-puissant et pas Dieu. Convoitise, adultère, faux témoignage, meurtre, autre Dieu devant la face de Dieu. Et en plus, il y a des circonstances aggravantes dans tout ça. La première, c'est simple, c'est qu'il est roi. Vous savez, qu'est-ce qu'il faisait d'habitude en tant que roi, David, quand c'était la guerre? Il était où? Normalement, il y allait un peu, quoi. Le roi, il était devant, quoi. Il allait à la guerre, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été nommé roi, parce qu'il a gagné, que le peuple le voulait roi, parce que grâce à lui, le peuple a gagné beaucoup de combats. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est la guerre. Circonstance aggravante, lui, il est tranquillement en train de se prélasser au palais. Et deuxième circonstance aggravante, et ça c'est Nathan qui... le prophète Nathan. C'est Nathan qui lui rappelle. C'est quoi la circonstance aggravante? Quand Nathan va le voir, il lui dit « Toi, tu avais tout, et Uri n'avait qu'elle. Et tu t'es servi quand même. » Donc, allez, pour répondre à la question, ça dépend de quoi, quand on parle de réconciliation. Je sais pas vous, mais on a rarement fait autant que David, à ce moment-là. Et David, est-ce qu'il fait profil bas? Vous ferez quoi, vous, si vous aviez fait ça? Est-ce que vous seriez en train d'écrire un psaume pour que tout le monde soit au courant? David, lui, il écrit ce psaume, que je vous invite d'ailleurs, on va lire ensemble, si vous voulez bien, c'est le psaume 51. Je vais passer les deux premiers versets et les deux derniers versets, qui sont des versets d'introduction, on va vraiment se concentrer sur les paroles que David adresse à Dieu. Psaume 51, et on va commencer à partir du verset 3. On va les lire, c'est important parfois de relire le texte pour comprendre un peu ce qui en sort. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce psaume a été écrit dans un but de rétablir la relation avec Dieu, après ce qu'il a fait. Quelque chose de pas très pardonnable, on va dire. On a dit, hein, adultère, tout ça, c'est très compliqué. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce psaume-là, pour certains commentateurs bibliques, dont Calvin, c'est le psaume qui parle de la reconstruction, du pardon. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce psaume-là en particulier est beaucoup apprécié de beaucoup de commentateurs. Alors quand on l'a lu, je ne sais pas si vous avez prêté attention, c'est David qui a fait quelque chose de pas bien. David. Et c'est vrai qu'au début on a dit que la réconciliation, ça dépend, en tout cas c'est comme ça qu'on le ressent, ça dépend de ce qui a été fait, et ça dépend de comment la personne se comporte. Et pourtant, quand on lit ce psaume, il n'y a pas quelque chose qui vous choque quand vous lisez ce psaume? Moi, la première chose, une des choses qui me choque, parce que c'est pas l'habitude que j'ai quand je me réconcilie avec les gens, c'est que je me rends compte qu'il y a déjà un déséquilibre dans les actions. Je ne sais pas si vous avez bien lu le texte avec moi. Qui c'est qui doit faire le plus de travail? Quand vous lisez les textes, hein, on lit, moi je lis à chaque fois, « Dieu pardonne, lave-moi ». Purifie-moi, annonce en moi, détourne ton regard. Bizarrement, il est un petit peu culotté au premier abord. Il demande surtout à Dieu de faire le travail. Et pas à lui. Alors que nous, on était en train de dire, attends, ouais, tu veux te réconcilier? Montre d'abord quelque chose. Et là, schéma tout à fait inverse, il demande surtout à Dieu d'agir, pas à lui. Dieu a plus à faire que David. Et c'est vrai qu'en fait, quand on y réfléchit un petit peu, ça rappelle une chose essentielle qu'on oublie souvent dans le processus de réconciliation. C'est qu'en fait, quand je dis que ça dépend de quoi, de ce qui a été fait, ça dépend de comment la personne se comporte. Mais en fait, la réconciliation, ça dépend surtout de moi qui a été blessé. Si la réconciliation est impossible, c'est avant tout, je crois, parce que la personne qui a été blessée n'arrive pas à passer par-dessus et ne veut pas pardonner. On dit souvent que c'est la faute de l'autre. Mais là, quand on lit schéma, on s'attend surtout à ce que Dieu fasse l'effort. C'est toi qui as été blessé à faire l'effort et pas à celui qui a fauté. C'est un peu bizarre. On le voit, dans, je vous dis, dans le déséquilibre. Et il y a une raison essentielle pour cela, qu'on oublie souvent. Et on le lit au verset 18. « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Et on oublie cette chose-là qui est essentielle. Est-ce qu'il y a un prix à la douleur? Il y a un prix pour la peine qu'on ressent? Si demain, je te donne 1 million d'euros, est-ce que je peux coucher avec ta femme? Ça choque un peu, peut-être. Mais souvent, on pense que la personne doit faire quelque chose pour racheter sa faute. Comme si ce que je ressens, le mal que je ressens en moi, a un prix. Ok, je veux bien te pardonner, mais fais 10 fois le tour de la ville. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a aucun sens de vouloir mettre un prix sur la peine et la douleur. J'ai envie de dire que c'est même contre-productif, parce que ça donne une fausse image de ce qu'on ressent. J'ai de la peine et je crois que ma peine peut s'effacer parce que quelqu'un d'autre va souffrir, parce que quelqu'un d'autre va payer quelque chose. Si tu veux que ta peine s'efface, ça dépend surtout de toi, pas du tout de ce que l'autre va faire. Et pourtant, on ne vit pas du tout comme ça. On attend ce que les autres fassent quelque chose. C'est important de voir que les gens font avant que je pardonne. Mais c'est souvent une erreur et une quête à la souffrance sur la souffrance. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas... C'est facile de dire que la personne ne doit pas forcément faire quelque chose pour être pardonnée parce que la peine que je ressens, quoi qu'il fasse, ça ne peut pas changer. C'est moi qui dois décider de l'effacer, cette peine, cette souffrance. Mais est-ce que ça voulait pourtant autant dire que la personne ne doit pas être punie? On dit ça, mais quand même, c'est pas... Non, la personne ne doit pas être punie. Et pourtant, on lit, hein, c'est dans le verset 6. Verset 6. Tu seras juste dans ta sentence. Tu seras juste dans ta sentence. Donc c'est que l'autre doit quand même un peu payer, non? Surtout que David, lui, il le sait. Quand on parle de sentence, quand on parle de jugement, ça lui parle. Parce que vous saviez qu'à l'époque, celui qui était principalement, celui qui appliquait la justice, c'était le roi. Salomon, c'est un exemple le plus frappant. Dès qu'il y avait un litige, on allait devant le roi, et c'était lui qui devait faire appliquer la loi, la sentence. On se rappelle en plus que dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Il faut payer, quoi, à un moment donné. Pourtant, on vient de dire juste avant que quoi que fasse la personne, ça ne va pas effacer la peine. Et dans ce cas-là, dans le cas de David, si Dieu il est juste, est-ce que la punition est tombée ou elle n'est pas tombée pour David? Elle est tombée? Est-ce que vous voulez qu'on relise ou pas le texte? 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 12, c'est l'épisode qui se passe. Si vous voulez bien, on va prendre 2 Samuel 12. On va lire les deux versets qui sont... 2 Samuel, chapitre 12. C'est là où Nathan vient, lui raconte l'histoire de la personne qui avait beaucoup de brebis et qui a piqué celle de celui qui en avait qu'une. Et vous savez, c'est quoi la sentence qu'a proposé David, le juge, hein? Verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Petit malaise après quand Nathan dit à David, « Mais cet homme, c'est toi ?» Ça, dur, dur, dur. On lit au chapitre 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Là où la justice voulait que disait que David mérite la mort, Nathan répond, « L'Éternel te pardonne, tu ne vas pas mourir. » Et et on a du mal à comprendre ça. C'est parfois un petit peu difficile. On est en train de dire, dans un premier temps, quoi que fassent les gens, ça ne rattrapera pas le passé et ça ne va pas effacer la peine. C'est pas parce que je paye, que je me flagelle, que je me tais, que ça peut effacer la peine que les gens ressentent. Mais d'un côté, on veut la justice et on veut que les gens payent. D'ailleurs, David naturellement dit que la personne qui a fait ça doit mourir. Et on a envie de dire qu'on est naturellement d'accord avec lui. Mais ce qu'on oublie, c'est que la justice de Dieu n'est pas du tout la justice de l'homme. Alors on ne comprend pas parce que c'était pourtant écrit dans la Bible, hein. Œil pour œil, dent pour dent. Et beaucoup, parfois, critiquent un peu cette loi du talion. Elle avait quand même quelque chose de positif, hein, cette loi du talion. C'est que je ne sais pas comment vous êtes vous, mais souvent, moi, quand on m'a fait quelque chose qui m'a vraiment déplu, j'aime bien me venger. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Dire, ah, j'aime bien me venger. Et souvent, on a souvent tendance à faire quoi quand on se venge? Enfin, je ne sais pas vous, mais à renchérir. On fait un truc en plus, quoi. Et au moins, la loi du talion avait ce mérite-là de dire, bon, ok, t'as eu un mal, mais on va pas aller dans l'excès. Mais est-ce que la condamnation est tombée pour David? Non, on le lit, hein. L'Éternel te pardonne. Et souvent, est-ce que la condamnation, elle tombe ou pas? Ou elle devrait tomber ou pas? Pour nous, oui, c'est ce qu'on ressent naturellement. Pour Dieu, non. Vous savez, vous connaissez l'épisode de la femme adultère que les hommes veulent lapider. Vous la connaissez, elle est très connue. Hein. Les gens l'amènent et demandent à Jésus s'il faut la lapider. Jésus répond que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et surtout, moi j'aime bien la fin. Hein. La fin. Jésus, vous savez comment il termine? Est-ce qu'il dit à la femme? Il lui dit, je ne te condamne pas. Et en fait, qui a du plaisir à punir? Surtout que, comme on l'a dit, ça ne va pas effacer la peine. Qui est sadique? Parfois on l'est, malheureusement. J'ai souffert, je veux que l'autre souffre, mais pourtant, ça ne changera rien à la peine. Ça va peut-être défouler 5 minutes, mais ça ne fera pas quelque chose à long terme. Et parfois, c'est vrai qu'on croit que Dieu doit nous punir. Et qu'on doit punir les gens qui font des choses pas bien. On a soif de justice, mais la justice de Dieu, elle est autre, parce que Jésus le dit, je ne te condamne pas. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit à la femme adultère, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Qu'est-ce qui intéresse surtout Dieu? C'est que les gens payent? Qu'est-ce qui m'intéresse quand j'ai la relation rompue avec les gens, que quelqu'un m'a fait quelque chose de mal? C'est que la personne souffre aussi? Ou que la personne change? Moi, je crois que quand Jésus dit « va et ne pêche plus », il lui dit surtout « c'est le moment de changer pour toi ». Et David, déjà, parce qu'on dit souvent qu'on parle du Dieu de l'Ancien Testament, du Dieu du Nouveau Testament, David, dans ce psaume 51, l'a très bien compris. Si on le reprend, psaume 51, et on va lire les versets 8. Le verset 8, qu'est-ce qu'on dit? Mais toi, c'est qui t'intéresse, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et verset 19, il va le répéter. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas, un cœur contrit et brisé. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas que le pécheur paye. Ça va soulager personne. Et si ça soulage, ce sera vraiment très temporaire. Ce que Dieu y veut, et ce qu'on recherche tous, c'est le changement intérieur. Et j'ai fait une petite confession pour les enfants, et tous les parents le savent aussi. Est-ce qu'on a un plaisir à punir nos enfants? Pourquoi on les punit alors? Je vais dire ça après, il y a un petit secret aux enfants, mais ça... Pourquoi on les punit? Parce qu'on espère que ça les fasse réfléchir, qu'ils puissent prendre le temps de la réflexion. Et je ne sais pas si ça avait déjà arrivé, mais en tout cas à Caroline et moi, c'est déjà arrivé. Est-ce que c'est déjà arrivé à certains parents de dire qu'ils allaient punir les enfants, et quand ils ont vu, ou qu'ils ont cru, que les enfants avaient compris, ont levé la punition? C'est arrivé à qui, ça? À tout le monde, je crois, non? On l'a tous vécu, hein? Des fois, on attendait la punition de papa et de maman. On a dit qu'on regrettait vraiment, on l'a peut-être montré, je ne sais pas. Et la punition n'est pas tombée. Alors les enfants, si vous voulez ne pas être punis, montrez du regret. Mais c'est ça la vérité, c'est ça le problème. On sait très bien que les actes n'effacent pas la douleur. La punition peut-être fait réfléchir, mais ce n'est pas le but. Ce qui intéresse Dieu, et ce qui nous intéresse aussi quand on aime vraiment les gens, c'est que les personnes changent. Et ça, David, il l'a compris. Il le sait parce que Dieu lui a dit qu'il ne serait pas puni. Parce que vous savez ce qu'il a dit quand même, avant que Dieu lui dise « te pardonne », il a reconnu, il a regretté. Il a voulu changer. Et d'ailleurs, on le lit d'ailleurs dans tout le chapitre des psaumes 51, il parle de vouloir changer, d'un nouveau départ. Il reconnaît qu'il a fait des fautes. Mais cela dit, moi, dans mon processus de réconciliation avec les gens, j'ai besoin de voir des choses. Et je trouve quand même que David, je ne sais pas ce que vous en pensez, après tout ce qu'il a fait, est-ce que pour vous, il montre beaucoup de regrets, David, dans ce psaume? Il en montre ou pas? Alors moi, je suis peut-être un peu trop sévère, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à me réconcilier avec les gens, à pardonner quand les gens m'ont fait du mal, mais on lit 5 mots. Car je reconnais mes transgressions. Moi, je trouve que ça, c'est plutôt rapide hein, comme confession. Je sais pas comment vous êtes vous, mais moi, c'est un peu ce que me reproche Caroline parfois. C'est que quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, j'ai besoin de retracer tout pour qu'on repasse bien chaque étape et que la personne me montre bien qu'elle a regretté à chaque étape de ce qu'elle a fait. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi. On est là, on fait, voilà, si quelqu'un vient me voir, fait, j'ai péché contre toi, je suis désolé. Élabore. Dis en plus, montre-moi vraiment que tu regrettes. Et quand même, moi je trouve que David, il n'insiste pas beaucoup hein, sur ce qu'il a fait. D'ailleurs, il ne décrit pas vraiment ce qu'il a fait. Hein. Nous, souvent, quand les gens viennent se confier à nous pour s'excuser, on pose toutes ces questions. Et qu'est-ce que tu regrettes vraiment? Rappelle-moi. Rappelle-moi ce que tu regrettes vraiment, parce que j'ai besoin de comprendre que tu regrettes vraiment. Et David, lui, il fait pas ça. 5 mots. Je reconnais mes transgressions. Il va pas dans le détail. Et c'est vrai que ça n'intéresse certainement pas Dieu. Et c'est peut-être le problème qu'on a parfois quand ce qui bloque aussi un petit peu les réconciliations, c'est qu'on a besoin, enfin on croit avoir besoin que les gens montrent qu'ils regrettent. Et pour cela, on a besoin que les gens s'étalent sur ce qu'ils ont fait de mal. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis vraiment désolé. Répète encore, je n'ai pas bien saisi. Il y a même un côté, j'ai envie de dire, parfois humiliant. Pire encore, vous savez, il y a quelque chose qui est très important. Ce qui intéresse, c'est que la personne regrette et que les personnes aient envie de changer. C'est ce qu'on a dit, pas les actes. Et comment nous, on peut savoir ce qu'il y a au fond du cœur des gens? D'ailleurs, il le dit, hein, Dieu. Dieu regarde au cœur, mais l'homme, lui, il regarde que ce qui frappe les yeux. L'homme, il ne sait pas lire vraiment ce qu'il y a dans le cœur des gens, des autres hommes. Comment je peux être sûr à 100% que la personne regrette? Parce que j'ai envie de vous dire un truc. Il y a des bons acteurs. Hein. Il y a des gens qui arrivent à faire croire qu'ils sont vraiment désolés. Les enfants en font partie. Et David, il sait ça. Il sait qu'il n'a pas besoin de s'étaler. Il n'a pas besoin de s'humilier sans cesse de se rabaisser, comme nous on attend, des autres qui le fassent quand on veut se réconcilier avec eux. Parce que vous savez ce qui est, moi je le sais parce que j'en fais partie, ces gens-là, c'est parfois dur d'exprimer ce qu'on le ressent quand on regrette. Qui arrive facilement à exprimer ses regrets? Ah, vraiment, vraiment? Quand on a fait vraiment quelque chose de pas bien, en tout cas moi je fais partie de ces gens-là, j'ai du mal à dire, à refaire l'histoire pour expliquer là où je regrette. Je préfère plutôt zapper. Je connais même des gens, je ne sais pas si vous en connaissez, il y en a dans ma famille, qui quand ils se sentent mal à l'aise, regrettent ce qu'ils ont fait, ils rigolent bêtement. Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils se sentent tellement mal à l'aise par rapport à ce qu'ils ont fait, qu'ils préfèrent détourner la conversation, ne jamais en parler. Alors vous imaginez, si on insiste en plus derrière pour « Non, on va comment en parler ?» parce que j'ai besoin que tu montres que tu regrettes, c'est très humiliant. Et Dieu, il ne demande pas ça. 5 mots. Je regrette. Enfin, là, 2 mots. Je reconnais mes transgressions. Il y a quelque chose en plus, mais je ne vais pas m'attarder dessus, parce que vous le savez, c'est que là où David aussi base aussi sa réconciliation, c'est qu'il compte aussi sur Dieu parce qu'il sait que Dieu peut transformer les cœurs. Il lui dit « Et purifie-moi », parce que c'est parfois dur de changer notre nature même. Il lui dit « Je suis né dans l'iniquité, je suis né pécheur, j'ai besoin de toi pour changer ». Et c'est vrai que souvent, quand les gens nous ont fait du mal, on oublie l'histoire que les gens ont. Savoir que peut-être que si on était amis, si on s'aimait, qu'on s'estimait que cette personne nous a fait quelque chose de mal, c'est peut-être pas gratuit, c'est peut-être qu'il y a une histoire derrière aussi. Vous savez, on dit souvent que les enfants battus étaient, enfin, que les enfants qui battent les parents qui battent leurs enfants étaient eux-mêmes des enfants battus. Parfois, c'est vrai qu'on est prisonnier du mal qu'on fait. Mais, et il compte dessus. Mais ce qui est important, c'est qu'il sait que Dieu, il a cette conviction, que Dieu peut le changer. Qu'il peut se réconcilier parce que Dieu, il s'en fiche des actes qu'on va faire après pour tenter de se faire pardonner. Parce que Dieu, il sait que le pardon, c'est quelque chose qui se donne, c'est pas quelque chose qui s'achète. David dit aussi que Dieu n'est pas un Dieu sadique, qui aime que les gens soient punis, s'humilient. Il sait aussi qu'il n'y a pas besoin d'insister, d'expliquer en long et en large pourquoi on regrette, parce que Dieu, il lit dans le cœur. Il a cette conviction-là, et il sait que Dieu peut le changer. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je trouve que c'est, pour moi, le verset le plus important dans ce psaume. Il lui dit, « Rends-moi la joie de ton salut. » Il sait tout ça, David. « Rends-moi la joie de ton salut. Je publierai tes louanges. » Et c'est quelque chose parfois qui choque parfois quand on essaie de se réconcilier. Comme je le dis, on attend toujours à ce que les gens fassent profil bas. Et là, David parle de retrouver la joie. Le pardon, c'est une source de joie. Et c'est vrai que souvent nous, je ne sais pas pourquoi on a du mal quand on sent mal et que la personne dit « écoute, je te pardonne, c'est pas grave », on continue à faire profil bas parce qu'on a souvent du mal à croire que ce qu'on a fait est pardonnable. Et je vous rassure, hein, je doute que vous ayez fait pire que David. Et lui, il y croit. Il parle de retrouver la joie, la joie, la joie. Et c'est vrai que parfois, on a du mal quand les gens font quelque chose de mal, aller voir se réjouir un peu trop vite, quoi. Je t'ai pardonné, mais bon, avant d'exprimer ta joie, attends un petit peu. Et c'est pour ça, certainement, que David dit ça. Rends-moi la joie du salut. Je veux faire la fête parce que tu m'as pardonné. Et qu'on peut recommencer quelque chose de nouveau. Et souvent, parfois, on est prisonnier de ce mauvais schéma de pensée, de dire que la personne a fait quelque chose de mal, je lui pardonne, mais, vas-y doucement. Je vais vous lire un commentaire qu'a fait Augustin sur ce psaume, si vous permettez. Et qui, pour moi, est important dans les principes de réconciliation. Écoutons ce que doivent imiter ceux qui sont tombés, ceux qui ont fait du mal. Car il y a bien des hommes qui ont la volonté de tomber comme David, mais qui n'ont pas celle de se relever comme lui. Son exemple ne nous est donc pas proposé afin de nous autoriser à tomber, mais afin que ceux qui seraient tombés se relèvent, retrouvent la joie. C'est pour cela que ce psaume a été écrit. C'est pour cela qu'il est souvent lu et chanté dans l'Église. Ceux qui ne sont pas tombés doivent écouter, afin d'être préservés de chute. Ceux qui sont tombés doivent écouter, afin qu'ils puissent se relever. Qui donc que tu sois qui a péché et qui hésite à faire pénitence pour ton péché parce que tu désespères de ton salut, écoute les gémissements de David. Nathan le prophète ne t'a pas été envoyé, mais David t'a été envoyé. Écoute ses pleurs et pleure avec lui. Écoute son amendement et réjouis-toi avec lui. Le péché a trouvé entrée chez toi, mais que l'espérance du pardon ne soit pas exclu. Et c'est pour ça, c'est vrai que parfois, on saute pas de joie quand la personne nous dit qu'elle nous a pardonné. On essaie toujours de faire profil bas. Parce que l'espérance du pardon est parfois exclue. On croit que c'est pas possible. Et j'avais envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'il est possible de tout pardonner et de toujours se réconcilier? Vous pensez que c'est possible ou pas? C'est vrai? Moi, c'est une espérance que j'ai, parce que j'ai du mal à le vivre. Et c'est parfois même impossible, parce qu'on dit, on parle parfois de rupture définitive avec les gens parfois qu'on fréquente. Et j'aime bien ce verset qui dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Matthieu 19, verset 26. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous croyez vraiment au salut ? Qui pense, qui peut lever la main aujourd'hui et dire « Je suis sûr à 100% d'être sauvé. 100% je suis sauvé. » Et vous savez pourquoi j'aime bien poser cette question-là? Parce qu'il y a souvent un malaise. Parce que c'est bizarre, parce qu'on vient de parler que tout est possible de pardonner, et tout le monde ne lève pas la main. On dit non, j'ai quand même fait des choses pas très bien. On a du mal à vivre, on a du mal à avoir un salut joyeux. Alors je vais reposer la question, est-ce que vous êtes sûr ou pas que c'est possible que Dieu pardonne tout? Qui croit qu'il est sauvé? 100%. Je vais voir Jésus, quoi. Tout le monde lève pas la main pourtant. Hein. David, lui, quand il écrit ce psaume, il y croit à fond. Hein. Il lui dit d'ailleurs, rends-moi la joie de mon salut. Maintenant, j'ai joyeux parce que je sais que je suis sauvé, que tu m'as pardonné. Que les pénitences, que les punitions, ça n'a pas de sens pour toi parce que tu sais que j'ai changé, que je veux changer. Pas besoin d'élucubrations sur ce que j'ai fait de mal. Et vous savez, moi, ce que je crois surtout, et c'est aussi un des passages de ce texte, moi, je crois que le pardon, j'ai certaines convictions que le pardon, c'est un des actes les plus puissants d'évangélisation, de témoignage du salut. Vous savez pourquoi je crois ça? Que c'est possible, que c'est ce qui est le plus puissant. Si vous voulez faire croire que, si vous voulez donner la conviction aux autres que Dieu peut pardonner, pardonner aussi, ça facilite. Parce que je crois que le salut que Dieu propose, c'est pas dans 2000 ans, 3000 ans. Le salut, ça peut être aujourd'hui qu'on vit. D'ailleurs, Dieu le dit, hein, Jésus le dit quand il est venu, il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Moi, je crois que pardonner, ou être pardonné, permet d'avoir une idée du salut. C'est vrai que quand on a du mal à lever la main pour dire, oui, je sais que je suis sauvé, c'est que souvent, moi, je crois, ça traduit le fait que parfois, moi-même, j'ai du mal à pardonner. Et Dieu met en garde, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il ne dit pas qu'on ne doit pas pardonner par intérêt, c'est pas ça, moi, je crois, que dit le verset. Il invite à pardonner parce que c'est difficile de croire en quelque chose si toute notre vie, on fait l'expérience inverse. Comment je peux croire ou comment je peux convaincre les autres que Dieu pardonne si toute ma vie, je dis qu'il y a des choses impardonnables? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est en le vivant, c'est en pardonnant, en étant pardonné, qu'on peut croire que Dieu pardonne. Ça se cultive, le salut, aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de vous dire, et vous savez, pour ceux qui me connaissent un peu, moi, je crois qu'à 100% que je suis sauvé. Et je crois à 100% que je suis sauvé, parce qu'en fait, deux fois dans ma vie, j'ai eu l'intime conviction d'avoir fait quelque chose d'impardonnable. Deux fois. Alors, le but, c'est pas de m'étaler sur ma vie, ceux qui la connaissent savent, et j'en ai déjà parlé aussi. Et ces deux fois-là, à chaque fois, la personne s'est approchée de moi, m'a tendu la main, m'a pardonné, et m'a dit qu'elle m'accompagnerait dans le changement. J'avais du mal à lever la main, moi aussi, en disant « je suis sauvé à 100% ». Mais quand on vit l'expérience du pardon, on peut y croire un peu plus que Dieu pardonne. Je vais vous relire. Hein. « Ô Dieu de mon salut, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Je crois que en pardonnant, les gens peuvent revenir à Dieu. Parce qu'ils vont y croire que Dieu pardonne. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai envie de vous inviter à réfléchir avec une personne à qui vous êtes en froid, qui vous a fait quelque chose peut-être de très blessant. Et à se dire peut-être que j'ai pas besoin qu'elle fasse des choses pour que je la pardonne, parce que ça ne vaudra pas la peine. D'essayer d'enlever cette illusion qu'elle paye va changer quelque chose. On n'est pas des sadiques. Que c'est à vous de faire l'effort, comme C'est écrit dans ce psaume 51 et c'est vraiment difficile. Et j'ai envie de dire aussi, rendez à cette personne le pouvoir du salut. Si vous lui pardonnez pas, ça sera difficile pour vous, parce que les tensions, c'est difficile, mais peut-être qu'elle va, cette personne-là va manquer de voir ce que c'est que la grâce du pardon. C'est difficile, mais rappelez-vous que ça ne dépend pas de quoi. David a fait pire que nous. Ça ne dépend pas de ce que font les gens, de ce que font les gens. Ça dépend de nous, la réconciliation, pour vivre un vrai salut. Pensez à ces personnes.